Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence une série d'études dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc, pendant plusieurs dimanches, nous allons prendre la première épître de Paul aux Thessaloniciens. First Epistle of Paul to the Thessalonians. Et bien sûr, au chapitre 1 et le verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Et je vais lire tout le chapitre. Mais ce sont les deux premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Et cette épître, cette lettre aux chrétiens de Thessalonique, eh bien, commence par Paul, Sylvain et Timothée. Normalement, dans une lettre que vous écrivez, hein, c'est la coutume en France, c'est qu'on signe le nom à la fin. Hein. Alors, vous recevez une lettre, vous ne reconnaissez pas l'écriture, tout de suite, on prend la feuille, on regarde en bas, on la retourne, on arrive à la fin pour voir qui est-ce qui a écrit. Ici, la méthode qui est utilisée à l'époque, c'est qu'on annonçait tout de suite, dès le début, qui c'était. Hein. C'est peut-être plus logique, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est comme ça. Alors qui écrit la lettre? Eh bien, c'est trois hommes, Paul, Sylvain et Timothée, et ils nous disent à qui ils l'adressent, donc à l'église de Thessalonique. Donc justement, c'est là le titre de notre étude, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Je commence. Verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu le Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà, ça c'est, il commence une lettre, il dit, écoutez, on vous adresse cette lettre, et puis finalement, c'est un privilège de pouvoir vous adresser cette lettre, parce que tout le monde a entendu comment, quand l'évangile a été prêché chez vous, quelle transformation ça a causé, et comment vous avez abandonné votre vie passée pour vivre une vie nouvelle. Et ça sera beaucoup le thème, l'église de Thessalonique est une bonne église, une église qui est fidèle, et donc il ne dira pas de changer de voie, il lui dira seulement aller de progrès en progrès, continuer dans la même direction. Alors, les salutations à cette église de Thessalonique, eh bien, viennent de la part de trois hommes, et qui ont travaillé ensemble, en équipe, hein, et qui ont servi Dieu dans cette ville. Et leur engagement reste entier. depuis le jour où ils sont arrivés à Thessalonique la première fois, qu'ils ont parlé, la première fois qu'ils ont pénétré dans la synagogue, ils ont parlé. Et jusqu'à là, même s'ils ne sont plus à Thessalonique et qu'ils écrivent une lettre, eh bien, ils sont tout à fait engagés. Et donc, premièrement, nous voulons voir qui sont ces trois hommes. Hein. Peut-être l'apôtre Paul, il est bien connu. Sylvain, peut-être vous en savez moins. Timothée, peut-être un petit peu. Mais ce que nous voyons, c'est que ces trois hommes forment une équipe. Et une équipe qui est unie. Une équipe qui a une intention. Une équipe qui sert un même maître. Et donc, ici, nous présente du Paul, Sylvain et Timothée, sans faire de distinction, sans nous dire qu'il y en a un qui est chef, sans nous dire que un est un stagiaire, sans nous dire que, non, les trois sont là, sont présentés. Nous savons, les uns et les autres, qu'ils ne sont pas tous la même stature spirituelle, ils ne sont pas tous anciens dans la foi, mais vous savez, quand il les présente, il présente tous les trois pareillement. C'est déjà une suggestion pour nous. Hein. Parfois, dans les églises, on fait trop comme dans le monde. Dans le monde, il y en a qui sont plus élevés, il y a des hiérarchies, il y a ceux qui sont, ils ont plus de poids que d'autres, de par leur compte en banque, ou de par leurs études, ou de par leurs origines. Ça, c'est les injustices du monde. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est plus la culture du monde qui doit régner, c'est la culture de Dieu. Et dans cette culture de Dieu, bien, ces trois hommes qui, à un autre regard, sont différents, hein, ne sont pas tous égaux, mais là, ils nous les présentent pareillement. Et ce que vous allez pouvoir voir, c'est qu'en lisant toute l'Épître, eh bien, c'est chacun, nous vous disons, nous vous encourageons, nous. C'est-à-dire, on est à trois, on est ensemble, on est unis, il n'y a pas de distinction entre l'un et l'autre. Hein, et ça, c'est une première chose. Donc, une première chose que nous voyons, c'est une équipe unie en Christ. Et comme je dis, ça, c'est un bon exemple pour nous-mêmes. Même dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, et ça commence exactement pareil, Paul, Sylvain et Timothée. Hein, donc, ils écrivent la première lettre. Plus tard, quand ils écrivent la deuxième lettre, c'est toujours pareil. C'est la même équipe et c'est cette image qu'ils ont et qu'ils projettent. Alors, ce que nous remarquons aussi, que l'apôtre Paul, eh bien, il se présente différemment que dans beaucoup d'autres épîtres. Si vous regardez les débuts des autres épîtres, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, où il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Dans un sens, il est en train de donner, il dit, je m'adresse, mais je ne suis pas n'importe qui, moi j'ai été choisi par Dieu. Mais dans cette église, il n'a pas besoin. Il dit, je suis Paul. Pourquoi ? Parce que cette église a compris qui il est. Ils l'ont reçu. Ils le reconnaissent comme étant celui que Dieu a envoyé, comme étant celui qui leur a apporté la parole. Et il n'a pas besoin de se présenter, donner ses diplômes, ni avoir une lettre de recommandation, ni rien du tout. Il dit, vous me connaissez, je suis Paul. Et je suis ce que vous avez connu, rien d'autre. Et Paul se présente, il ne dit pas j'ai été envoyé par l'église d'Antioche, donc vous savez, vous devez bien me recevoir, vous devez me respecter, vous devez. Il n'y a pas besoin. Hein. Quand il y a du vrai respect, eh bien, on n'a pas besoin de s'imposer. Hein. C'est comme à la maison, hein. C'est très naturel pour les parents. Les parents n'ont pas besoin de dire. Hein, c'est dans les cas extrêmes où c'est colère contre colère. C'est seulement dans les cas extrêmes où je suis ta mère, tu dois m'écouter. Ça, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on ne sait plus quoi dire. Tandis que normalement, quand tout se passe bien dans la maison, rien que c'est papa qui parle, c'est maman qui parle, J'en tiens compte. Mais quand il y a une situation de conflit, alors là, après, on est obligé d'affirmer qui on est. Et c'est moi ton père. Et tu dois m'écouter. Ben ça, quand ça arrive là, on sait que déjà les choses ont dégénéré longtemps. Hein. Mais tandis que là, Paul, il n'est pas dans cette situation-là. Dis-moi, je suis Paul. Ben oui, Paul, oui, on sait bien qui Paul est. Il nous parle de Paul et puis il nous parle de Sylvain. Sylvain, ben, c'est le même nom que Silas. Hein. Sylvain, c'est le nom romain ou latin, hein, Sylvanus. Sylvain, c'est son nom latin. Sinon, c'est Silas, son nom hébreu. Et vous voyez dans le chapitre 2, verset 2, eh bien, Paul et Sylvain ont enduré un mauvais traitement, hein, ils ont été outragés, ils l'ont vécu ensemble. Et puis il nous dit dans Actes chapitre 16, il nous dit qu'ils ont même été chassés. Hein, Paul. Vous savez, dans Actes chapitre 16, il était à Philippe, Paul et Silas ont été jetés en prison. Et c'est là où ils étaient en prison, ils ont chanté pendant la nuit, puis il y a eu le tremblement de terre. Ben, c'était Paul et Silas. C'était Paul et Sylvain, ils avaient fait équipe ensemble. Et ils étaient arrivés, donc à chapitre 17, ils sont arrivés à Thessalonique. Et c'était une nouvelle ville, ils avaient été chassés de Philippe. Ils avaient fait 160 km hein, jusqu'à Thessalonique. Et ils arrivent à Thessalonique et ils font ce qui était leur coutume, ce qu'ils ont toujours fait quand ils sont arrivés dans une ville. Ils ont cherché la synagogue et ils se sont joints aux autres, et ils ont commencé à parler. Comme on voyait que Paul était un érudit, alors on lui accordait la parole, et il commençait à parler. Et très vite, les hellénistes qui étaient présents dans la synagogue, les hellénistes, ce sont donc les gens de culture païenne grecque, qui s'étaient convertis au judaïsme, et bien, quand eux, ils ont entendu Paul, ils ont répondu à... Et tout d'un coup, on voyait qu'il y avait tous ceux de culture grecque qui suivaient l'enseignement de Paul. Et puis alors, les autres ont été jaloux qu'ils suivaient Paul. Alors, ça créait des tensions. Et à Thessalonique, très vite, on va vouloir chasser Paul et son équipe. Et il devra quitter Thessalonique. Donc, il n'a pas pu rester très longtemps. Paul, il a prêché la parole, elle était bien reçue, mais il n'a pas pu rester aussi longtemps qu'il aurait voulu pour vraiment enseigner et affermir les croyants. Et vous allez comprendre plus tard que pourquoi il va être préoccupé pour savoir si vraiment ils sont tenus et qu'ils sont fidèles jusqu'au bout. Et Sylvain, bon, je vous ai dit que c'est Silas. Silas, c'est, peut-être vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, il y avait eu un concile à Jérusalem et pour décider comment on allait recevoir les païens dans l'église de Jésus-Christ. Parce que jusque-là, le judaïsme avait toujours considéré que des gens qui venaient à Dieu devaient entrer dans le judaïsme. Mais là, il dit, mais non, on ne rentre pas dans le judaïsme, on rentre en Christ. Et c'était assez nouveau. Et donc, il y a eu un grand concile où ils ont beaucoup discuté. Et finalement, ils ont dit, non, eh bien, ils n'ont pas à rentrer dans le judaïsme, ils n'ont qu'à rentrer dans la foi en Jésus-Christ. Hein? Donc, on n'est pas obligé de devenir juif pour venir à Dieu. Hein? On vient à Dieu directement, sans passer par une communauté quelconque. Et donc, après, il fallait informer les églises qui avaient des païens. Il fallait informer ces églises de la décision de Jérusalem. Et alors, l'église de Jérusalem va choisir deux hommes qui seront les représentants de l'église. Et de ces deux hommes, un sera Jude, que vous connaissez parce qu'il a une épître, et puis le deuxième sera Silas. Donc deux hommes respectés qui vont transmettre la pensée de l'église de Jérusalem aux églises. Hein, on leur dire... Voilà, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans les rites du judaïsme. mais vous êtes partie de la communauté de l'Église. Et donc ils vont d'abord se rendre à Antioche, hein, donc c'est là où on va commencer à... C'est là où la question a été soulevée la première, et donc c'est là qu'ils vont venir. Après un certain temps, Jude va retourner à Jérusalem, mais Silas va rester. Silas ou Sylvain va rester là, à Antioche. Et par la suite, eh bien, quand Dieu va appeler, quand Paul va vouloir faire son deuxième voyage missionnaire, eh bien, il prendra Silas comme son coéquipier. Hein, donc c'est là le processus. Hein. Donc Silas, c'est quelqu'un d'ancien, mature, très respecté dans l'église de Jérusalem. Et c'est lui qui va se joindre. Alors, il se joint à Paul. Paul qui lui avait... Il venait de terminer sa formation avec Barnabas. Hein, vous vous souvenez, Barnabas était celui qui était mûr, et Paul était à côté de lui. Ils ont fait le premier voyage missionnaire. C'était le stage pratique. Hein, c'était sur le terrain. Et donc maintenant, quand on va faire le deuxième voyage, eh ben, Paul va prendre Silas avec lui et ils vont faire le deuxième voyage missionnaire. Donc déjà, ça vous donne une idée des hommes, hein, qui sont à des stades de maturité différentes, mais qui vont former l'équipe. Et vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, on est tous à des stades différents de développement, de croissance dans la foi. Mais ça n'empêche pas d'être unis. Hein. Dans une école, hein, vous êtes dans un lycée où il y a une ségrégation. Hein, il y a ceux du niveau seconde, après il y a ceux du niveau première, il y a plus ceux qui sont en terminale. Et même dans ces niveaux-là, il y a les terminales S, et puis après il y a les autres terminales, et les uns se méprisent, les autres... Il y a une ségrégation qui existe. Pourquoi ? Parce qu'on a jugé les gens en fonction d'un certain niveau, d'une certaine performance. Et on accepte ça. Mais dans l'Église de Jésus-Christ... Eh bien, nous pouvons être unis. Nous sommes tous ensemble, dans une même classe, et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. C'est comme les anciennes écoles de campagne, où il y avait tous les niveaux dans la même classe. Il y avait une institutrice, et puis les petits étaient là jusque... tous dans la même classe. Et tous les niveaux étaient là, et on les enseignait tous. Timothée, eh bien Timothée, quand Paul est passé à Lystre, on est venu voir Paul et on a dit: Paul, on a un jeune homme ici, Timothée, c'est un disciple, nous te le recommandons, est-ce que tu peux pas le prendre dans ton équipe? C'est un jeune, sa mère est juive, son père est païen, il n'est pas dans la foi. Mais Timothée, il est sérieux, il est très bien, tu ne peux pas le prendre. Et Paul le prend avec lui, et il va le former, comme Barnabas a pris Paul, Paul va prendre Timothée. Hein, et c'est cette manière de fonctionner dans l'Église de Jésus-Christ, c'est que s'il y a un grand frère, ben, il prend le petit frère, et puis on va travailler ensemble. Hein, et on se développe ensemble. Et donc, là, quand ils vont être chassés de Thessalonique, quand ils ont été chassés de Philippe, eh bien, ils ont été jusqu'à Bérée. Et là, il y a eu des ennuis par la suite. Et Paul est allé à Athènes. Et Silas est resté à Bérée. Et Timothée est resté là, mais par la suite, Timothée est rentré. Ils se sont retrouvés ensuite. Mais l'équipe, même si quand elle était, ils n'étaient pas au même endroit, mais ils restaient liés. C'était une équipe qui a travaillé ensemble. Et donc, cette équipe, eh bien, on a Paul, qui est un érudit juif de nationalité romaine, nous avons Sylvain, qui est un helléniste, donc quelqu'un qui s'est converti au judaïsme et qui a une grande connaissance. Et puis après, on a Timothée, qui lui est un métis dans un sens, hein, qui est juif et grec, et qui est jeune dans la foi. Et ça, c'est l'équipe. Hein, c'est ça que Dieu va employer. Hein. Donc quand on lit Paul, Sylvain et Timothée, c'est une équipe formée de gens très différents, mais en même temps, c'est une équipe homogène. Si peut-être vous pensez à Luc, parce que Luc est celui qui a rédigé l'acte des apôtres, et vous dites, mais Luc, où est-il? Eh bien, Luc, même dans les actes des apôtres, Luc n'était pas tout le temps avec eux. Luc, c'était quelqu'un qui était parfois avec eux, et parfois il n'était pas. Et en fait, Luc était présent quand ils étaient à Philippe, parce que quand vous lisez dans acte 16, bien, Luc parle et dit « nous ». Donc, il est inclus. Puis ensuite, il parle d'eux, jusqu'au chapitre 20, donc du chapitre 16 au chapitre 20, Luc n'est pas avec eux. Au chapitre 20, Paul le retrouve à Troas. Voilà. Donc, l'équipe, c'est vraiment les trois. Hein, c'est vraiment les trois qui ont travaillé à Thessalonique. Vous savez, question pratique, eh bien, Fréjus, ça, c'est une autre ville et il y a un travail à faire. Et on est très différents les uns des autres, mais rien n'empêche d'avoir cette union d'objectifs, cet attachement, cet engagement pour faire une œuvre pour Dieu. Cette équipe n'était pas seulement unie dans la foi, hein, et ça c'est important, dans l'engagement et dans la manière de vivre notre foi, mais aussi cette équipe qui veut servir ensemble. Ils ont été utilisés pour fonder l'église de Thessalonique. Paul vient avec son expérience, qu'il a acquise avec Barnabas. Silas vient avec son expérience de l'église de Jérusalem. Et Timothée n'a jamais été à Jérusalem et il vient avec son expérience du monde païen. Et ils sont appelés à travailler ensemble. L'église de Thessalonique les a reçus, tous les trois, et était attachée à eux. Et si vous lisez cette lettre, vous voyez que tout le temps, les trois parlent d'une même voix. Hein, il n'y a pas Paul, il dit « moi je pense que », tandis que Silas il pense que, ou Sylvain pense que, et Timothée, alors lui, il a une autre opinion de jeune. Non, il n'y a qu'une seule voix. Surtout parce qu'on sait que c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Et l'église de Thessalonique a toujours bien reçu cela. Parce que ils avaient reçu l'évangile par eux et ils avaient compris qu'ils devaient vivre. Donc il n'y a pas de distinction en fonction de l'âge, il n'y a pas une distinction en fonction de l'expérience, il n'y a pas une distinction en fonction de la maturité. Ceux qui étaient unis dans le service pour le Seigneur ils étaient responsables. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on choisit les responsables dans une église. Ce n'est pas les vieux, et ce n'est pas forcément les jeunes, mais ce sont ceux qui sont engagés à vivre pour le Seigneur. Ceux qui, leur vie est marquée par l'Évangile. Ceux qui ont la pensée du Seigneur. C'est pas comme le monde avec l'âge, l'expérience, tu es chrétien depuis longtemps, il n'est pas long. Il y en a qui sont chrétiens depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'ils savent de l'Évangile? Rien du tout. Et il y en a qui sont tout nouveaux, ils ont juste quelques années, mais ils se sont vraiment donnés, ils comprennent beaucoup de choses. Vous savez, et c'est ça que l'on regarde. C'est celui qui vit pour le Seigneur. C'est celui qui cherche à connaître le Seigneur. C'est celui qui est proche du Seigneur. Et c'est plus les manières du monde, c'est les manières de Dieu. Hein? Donc Dieu a pris trois hommes qui étaient engagés à 100%, sans regarder leurs origines, sans regarder leur âge, sans regarder les années d'expérience, mais c'est le fait qu'ils étaient engagés et Dieu pouvait se servir d'eux. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est la pratique que nous voulons appliquer aussi. Hein, ceux qui vont être les responsables, ceux qui vont pouvoir faire quelque chose dans l'Église de Jésus-Christ, ce sont ceux qui vivent pour le Seigneur pleinement, ceux qui sont engagés, ceux qui ont une seule pensée, c'est celle de Jésus-Christ. Et un domaine où ils étaient unis, c'est une équipe qui est unie dans la prière. Hein, vous avez peut-être remarqué déjà dans ce premier chapitre, au verset 2, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de nous dans nos prières. » C'est une équipe qui prie ensemble. Et il dit, pas seulement il dit « Nous avons prié » ou « On prie une fois par mois », mais il dit « Nous prions continuellement pour vous. » C'est pas seulement « Ben, quand on pense à vous, on prie pour vous. » Non, il prie, il a dit, même si on est absent, nous, on ne vous a pas laissé, on ne vous a pas abandonné. On est toujours avec vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que très tôt, hein, l'Église a commencé à se former, et puis ils ont eu des ennuis, et Paul et son équipe, ils ont été obligés de partir, et tout le monde n'avait pas reçu beaucoup de formation. Ils avaient reçu des choses, ils avaient appris des choses, ils avaient compris qu'il fallait abandonner la vie passée pour vivre la vie nouvelle. Ils avaient compris cela. Mais Paul savait qu'il passait par la persécution. Il y avait beaucoup de persécutions. Et quand on lit le chapitre 4, il nous dit même que certains parmi vous sont morts. Certains sont morts pour la foi. Ça, c'est pour vous dire le degré de persécution et d'opposition qu'ils ont rencontré dans l'Église. Et Paul et Barnabas, Paul et Sylvain et Timothée sont préoccupés. Ils disent, mais on se demande s'ils tiennent encore. Et on n'a pas de nouvelles. Et donc, il nous dit au chapitre 3, il nous dit par exemple au verset 6, il dit, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné des bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Donc ils étaient tellement préoccupés, ils priaient pour eux, mais en plus ils ont envoyé Timothée, ils ont dit, Timothée, écoute, va là-bas, va prendre des nouvelles, va voir comment ça se passe. Parce que vraiment, on est préoccupé par eux, on cherche leur bien et Timothée va et il revient avec des bonnes nouvelles. Il dit, ils sont fidèles. Ils sont pas anciens dans la foi, ils n'ont pas de grandes connaissances, mais ceux qu'ils savent, ils le suivent, ils le pratiquent. Et même devant la persécution, devant l'opposition, même la menace de la mort, eh bien, ils sont fidèles. Et l'apôtre Paul dit au verset, en conséquence, verset 7, en conséquence, frères, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de la foi. Et maintenant, nous vivons. Il a dit tellement on était préoccupés, on était accablés. Mais maintenant qu'on a appris que vous êtes fidèles, que vous êtes attachés à l'Évangile, que vous n'avez pas abandonné, il dit nous vivons, nous sommes dans la joie. C'est vraiment pour dire. Et quand on est vraiment, on est dans la prière pour quelque chose, quand on a vraiment prié avec quelqu'un pour quelque chose, et quand la réponse vient, eh bien, on se réjouit. Tandis que si on a juste mentionné comme ça, oui, ben, je te prie pour tous ceux qui souffrent dans l'Église, eh bien, le jour où celui qui a souffert est soulagé, eh bien, on n'a pas trop à se réjouir parce qu'on n'est pas trop rentré dedans. Mais l'apôtre Paul cette équipe, ils étaient tellement dedans et préoccupés que ça a changé leur manière de vivre et de voir la vie quand ils ont appris la bonne nouvelle. Il a dit, et ce qu'ils ont appris au verset 8, il dit maintenant nous vivons puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. C'est ça qui est important, vous demeurez ferme dans le Seigneur. Vous souffrez, oui, mais vous demeurez ferme. Et c'est ça qui apporte la joie. Et c'est ce que dans toute Église, ce n'est pas le fait qu'elle existe, c'est le fait qu'elle demeure ferme dans la foi. Et pour que l'Église demeure ferme dans la foi, il faut que chacun qui la compose demeure ferme dans la foi. Il y a combien d'hommes qui prient là ? Trois hommes. Vous savez, il y a un verset qu'on cite toujours, là où deux ou trois sont réunis en mon nom et demandent quelque chose, je le ferai. Hein, deux ou trois. Ben là, ils sont deux ou trois. Et deux ou trois, ils étaient en prière pour l'église de Thessalonique. Et ils ont soutenu, ils ont intercédé pour cette église. Et dans le passage difficile de cette église, ben, eux, ils étaient là. Et Dieu a répondu. Ils ont eu la réponse. Hein, parce qu'ils priaient. Ils étaient deux ou trois unis dans ce même objectif. Vous savez, la tendance, la chose naturelle pour nous quand nous prions, c'est que nous prions pour nous-mêmes. Je prie pour mes soucis, je prie pour ceci, je prie pour moi. Et vous savez, le risque, on dit je prie, oui je prie pour mes problèmes, je prie. Mais c'est très difficile de faire la distinction entre tu pries pour tes problèmes et tu te soucies de tes problèmes. Ça se ressemble beaucoup quand on prie pour nos propres problèmes. Hein? Quand je prie, mais ce serait difficile de dire si c'était du souci ou si c'était de la foi. Tandis que quand on prie pour quelqu'un d'autre, c'est pas du souci, c'est de la prière. Et pour que ça se fasse bien, parce que nous savons que le chrétien ne doit pas se faire, hein, nous ne devons pas se faire du souci. Hein, nous ne devons pas être anxieux pour les choses de notre vie. Nous devons faire confiance, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et donc, quand je prie que pour moi, eh bien, le risque, c'est de glisser dans le souci et le mauvais sang, comme on dit. Mais quand je prie pour quelqu'un d'autre, c'est pas, je ne suis pas en train de faire du souci pour lui, je suis en train de prier pour lui. Et par la foi. Et donc, comment gérer cette chose ? Eh bien, si tout le monde priait pour les autres, personne ne serait oublié. Mais quand chacun prie pour lui-même, déjà, il n'est pas sûr qu'il prie correctement, parce que peut-être c'est du souci, pas de la prière. Et deuxièmement, il est en train d'oublier tous les autres. Alors que l'apôtre Paul, aux Galates, eh bien, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Hein, dans Galates 6, verset 2, il dit « Portez les fardeaux des uns des autres. » Et s'il a pu le dire, c'est qu'il le faisait. Donc, quand nous portons les fardeaux des uns des autres, c'est la loi de Christ. Quand je me charge de mes fardeaux, il dit « Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et vous savez, il y a Dieu connaît notre faiblesse, il nous connaît notre tendance, et nous devons connaître aussi notre tendance, et nous devons faire confiance à notre Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul, les trois là, ils priaient pour les frères qui étaient à Thessalonique. Et certainement que ceux de Thessalonique priaient pour ces trois frères, et chacun priait pour l'autre, et ainsi, eh bien, nous sommes soutenus. Bien sûr que pour pouvoir prier, porter les fardeaux des autres, eh ben, il faut les connaître. Il faut qu'on les partage. Hein? Vous savez, des fois, dans les églises, tout le monde vient, tout le monde va bien, personne n'a des soucis, tout le monde est beau, tout le monde est... Il n'y a rien du tout. Et tout le monde fait semblant d'être très bien. Alors que... Vous savez que dans la vie, c'est rare que tout le monde va bien. En général, s'il y avait plus de deux personnes, si vous avez au moins deux personnes, vous avez trois problèmes. C'est pas, il y a toujours. Mais si tout le monde, chacun vient et puis il essaie de faire semblant de que tout va bien pour lui, il n'a pas de souci, pas de préoccupation. Non, tout va bien, alléluia, gloire à Dieu. Et puis il loue le Seigneur. Je me rappelle une fois, il y avait une dame qui est venue voir ma femme et dit, moi, dans mon église, tout le monde va bien, il n'y a que moi qui ne va pas bien. Ma femme lui dit, écoute, c'est pas vrai. Il dit, comment ? Les autres, c'est alléluia et tout. Il n'y a que moi, j'ai des soucis, j'ai plein de soucis. Il dit, les autres, ils ont des soucis, mais ils n'en parlent pas. Et au moins, toi, tu l'admets. Tous. Mais comment est-ce qu'on va... Si je dis aux autres que je n'ai pas de soucis, j'ai rien du tout, comment ils peuvent prier pour moi ? Comment je vais prier pour une préoccupation, un fardeau que tu as ? Si je ne suis pas informé. Parce que je ne peux pas savoir autrement. Et là, l'apôtre Paul, Pierre, Sylvain et Timothée, même apôtres de Jésus-Christ, serviteurs de Dieu, tout ça, ils ont quand même envoyé Timothée pour aller prendre des nouvelles et dire on a besoin de savoir quels sont vos soucis, comme ça on peut mieux prier pour vous. Et donc il est important dans une église, non pas de faire semblant d'être fort, parce que nous sommes tous faibles, mais c'est de se prier les uns pour les autres, de se soutenir mutuellement, et c'est là où nous serons tous plus forts. Parce que nous sommes soutenus les uns par les autres. Maintenant, quand je sais que quelqu'un a un souci, ou a une préoccupation, ou il a quelque chose qui... Et puis après, je ne fais rien. Après, là, je laisse tomber. Hein. C'est comme dans un jeu de basket. Et puis quelqu'un me passe le ballon et moi je le prends et je laisse tomber. Quelqu'un me passe un sujet de prière et puis moi je prends, je laisse tomber, je prie pas. Ça c'est pas bon joueur. Hein. On va pas aller loin comme ça. Mais quand je reçois un sujet et je prie pour cette personne et je porte son fardeau avec elle, alors là, eh bien c'est autre chose. Et donc c'est beau de parler. Ah oui, Paul et Sylvain et puis Timothée, ça c'est une belle équipe, c'est beau de les voir travailler ensemble, mais c'est là-bas au loin. Non, mais nous, hein, nous, comment est-ce que nous allons travailler ensemble, hein? Et si nous ne sommes pas dans le même objectif, si nous n'avons pas la même pensée, nous n'avons pas le même Seigneur, et puis nous ne prions pas ensemble, hein, eh bien comment est-ce que le travail va se faire? Alors l'implantation de l'église de Thessalonique, et eh bien elle s'est faite au moyen d'une équipe qui reflétait la diversité. Ça c'est bien, hein, déjà ici on a eu pas mal de diversité, et j'espère qu'on conservera la diversité, parce que Dieu aime la diversité. Il suffit de regarder la nature et on voit que tout est très divers. Mais en même temps, diversité, union dans l'université. La diversité, c'est ça la caractéristique de l'œuvre de Dieu. Vous allez dans les choses du monde, eh bien, c'est ceux qui se ressemblent qui s'assemblent. Tandis que dans l'Église de Jésus-Christ, ça doit être. Hein, c'est divers, mais ils s'unissent. Et elle était unie dans le service et dans toutes circonstances, quand ça allait bien et quand ça allait mal. Hein, quand c'est une union par intérêt, hein, et combien de mariages de nos jours se font, le garçon il est beau, il a un travail, mademoiselle elle est belle, elle a un travail, elle a fait des études, on va se marier, et puis tout. Et puis après, il arrive un moment, il y en a un qui perd le travail. Il dit, écoute, si tu ne peux pas payer ta part de loyer, ben dégage. Ah bon, tu me disais, il y a un an, tu me disais que tu m'aimais. Et là, tout d'un coup, c'est dégage. Pourquoi ? Parce que les intérêts personnels. Devant le maire, on dit, oui, pour les bons et les mauvais jours, pour les ceci, cela, on dit des belles choses devant le maire. Mais il n'y en a pas beaucoup qui gardent leur parole. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas la même règle. Devant Dieu, c'est je veux être attaché et fidèle, quelles que soient les circonstances, nous restons toujours attachés. Parce qu'il y a un amour mutuel. Dieu n'a pas cherché son intérêt quand il nous a aimés. En fait, il s'est créé plein de problèmes. Il s'est créé plein de soucis quand il nous a rachetés. Avoir une équipe de chrétiens comme les chrétiens se comportent dans le monde, mais c'est ici une fatigue. Il n'a pas cherché son intérêt, il a cherché le nôtre. Et nous devons avoir cette même attitude, se chercher l'intérêt. Ce n'est pas ce que tu as quand tu viens, c'est ce que nous pouvons t'apporter. Hein, ce que nous pouvons faire pour toi, ce que Dieu peut faire pour toi, qui importe. Et donc, dans cette église de Thessalonique, ce que nous allons voir, c'est justement une église qui a cet esprit-là. Et c'est l'esprit que nous voulons. Hein, nous allons étudier ça, c'est pour notre enseignement, pour avoir un modèle, pour pouvoir savoir comment vivre selon la pensée de Dieu. Là, d'abord, ça commence par une équipe qui est unie dans le Seigneur et dans la prière. Et Dieu fera son œuvre et Dieu fait son œuvre. Et donc, Dieu nous donne aussi de chacun, hein, chacun s'engager. C'est pas, j'attends que les autres vont voir ce qu'ils vont faire. Non, non, je fais ce que j'ai à faire. Paul, Sylvain et Silas n'ont pas attendu que les autres suivent. Eux se sont unis, ils ont fait une équipe. Et les gens se joignent à cette équipe. Et l'œuvre se fait. Et donc, et nous voulons aller jusqu'au bout. Hein, dans le monde, le monde autour de nous, il souffre du fait que chacun affirme son individualisme. Mais moi j'aime ça, moi je fais ça, moi j'aime pas faire ça, moi je suis comme ça, moi j'aime, je veux ça. Moi... Et comment gérer, hein, comme disait, qui est-ce qui disait, comment gérer un pays qui a 360 fromages? Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Déjà rien que sur le fromage, hein, en France. Et alors comment? Chacun a son fromage. Chacun a ma région, et chacun mon truc, et moi. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est pas ce qui est à moi, c'est ce qui est dans l'intérêt de Dieu. Hein? Et c'est facile d'en parler des problèmes des autres, mais nous, hein, dans notre famille, dans notre situation, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous voulons, et c'est pas ce que quelqu'un peut penser, c'est ce que la parole nous enseigne. Et vivre un engagement. On est là, on n'est pas là pour ressembler comme le monde, on est là pour ressembler à des enfants de Dieu. Et que ça se voit, que ça s'entend, que ça se ressent. Hein, comme je crois que c'est dimanche dernier, on en parlait déjà dimanche après-midi, on disait quand quelqu'un rentre, qu'est-ce qu'il ressent? Il dit, bon, c'est pareil, ce qu'il y a sur le trottoir, c'est à l'intérieur, hein, c'est pareil. C'est seulement eux, ils chantent. Ils se réunissent le dimanche, mais sinon c'est pareil. Où est-ce qu'il dit? C'est autre chose, ça. C'est des gens, c'est des gens qui voient les choses autrement et à la gloire de Dieu. Hein, donc c'est très important. Et que le Seigneur nous aide. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton amour. Nous te remercions pour l'œuvre que tu veux faire. Seigneur, nous sommes là à Fréjus. C'est parce que tu veux que nous soyons là à Fréjus, parce qu'il y a des âmes perdues, il y a des âmes qui t'ont connu et qui sont égarées, et pour des raisons ou d'autres, pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, elles ne sont plus là. Et Père, il y a un travail à faire. Et c'est pour toi. Mais Seigneur, si les choses ne se règlent pas dans l'équipe, comment est-ce que les autres peuvent s'y joindre? Et Père, donc nous te prions de nous aider. C'est pas créer notre petit club, mais c'est d'avoir une représentation de ton Église ici dans cette agglomération. Et donc, Père, donne-nous de bien comprendre ta pensée, d'être disposé à te suivre et à vivre pour toi pleinement
Hein, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Pierre, c'est que tu nous as rachetés, c'est pour que nous soyons à toi et que nous vivions pour toi. Donc, Père, aide-nous. Et pardonne-nous nos faiblesses, aide-nous avec nos manquements. Mais Seigneur, mais que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous voulons prier. Amen.